quelque chose qui serait transférable à cette compétence 1, mais il y en a quand même. Il y en a. Pas mal des gens dans la méthodologie de travail. Par exemple, là, j'étais en train de regarder, en t'écoutant de ce fait, ce qu'on trouvait sur des sites académiques concernant, par exemple, palier 3 de la compétence 1. En fait, on arrive à quelque chose d'archi-squelettique qui, manifestement, attire totalement l'attention sur la norme, la ponctuation, la cohérence. Ce que Claude Boecher, dans sa présentation, lui, aurait pointé comme étant... si on peut dire, le premier palier d'apprentissage, en fait, ce qu'on va travailler peut-être plutôt dans l'enseignement primaire et qui va être peut-être un peu moins jusqu'en sixième. Tu as mis ton clivage à peu près sixième, cinquième, hein, c'est ça. Et puis, moi, ensuite, en fait. Hein, voilà. Donc, il me semble que quand même, il y a des choses qui sont, au moins dans les méthodologies, dans les façons de faire repérables. Par contre, ce qu'on perçoit par rapport à la science... Alors, le problème de la compétence, c'est la
3.
La 3. C'est que là, vous êtes sur plusieurs disciplines, en fait. Ouais. Ça veut dire physique, etc. Et que sur la 1, ce serait toutes les disciplines.
Avec la différence que le socle commun de connaissances et de compétences concerne toutes les disciplines.
Et formuler une hypothèse, c'est vraiment...
Voilà. C'est la différence avec les programmes disciplinaires. Et ça, c'est aussi une ambiguïté. C'est-à-dire que c'est quand le socle commun est paru, c'est que les disciplines ont dit « Ah, ben ça, c'est ma discipline, ça, c'est la mienne. » Et puis, les autres disent « Moi, ça, moi je ne suis pas concernée. » Normalement, quand tu regardes le socle commun de connaissances et de compétences, qui, normalement, a pour but de bien centrer sur l'élève. On revient, du coup, c'est une forme de recentrer sur ce que l'élève est capable de maîtriser et donc pose la question « Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui, visiblement, sont en train de décrocher ?» Voilà. Et par rapport à ça, c'est donc un travail collaboratif des enseignants. Normalement, ça doit conduire les enseignants à travailler ensemble pour la maîtrise de ce socle. Et normalement, c'est toujours pareil, quand on regarde, toutes les compétences doivent être maîtrisées sans compensation entre elles. C'est bien... Normalement, ça se présente comme des standards minimums, avec la difficulté que, pour des standards minimums, peut-être que certains contenus sont quand même un peu élevés. Parce qu'ils ont été faits a priori. Voilà. Mais l'idée est là. La façon dont ça a été fait. Et donc, finalement, après, ça a été réduit parce que ça a pu être compris sur ce qu'on doit enseigner. Pas du tout. C'est pas ce que l'on doit enseigner. Dans ce que, après, dans les incompréhensions que même les enseignants ont eues, enfin, dans cette difficulté, il y avait à la fois compétences qui arrivaient et puis en disant, c'est une réduction. C'est pas une réduction, c'est un autre outil que les programmes. Ça ne remplace pas les programmes. C'est ce sur quoi, en particulier, le SOC, il a une importance, en particulier pour les élèves moyens-faibles. C'est un outil pour les élèves moyens-faibles, les élèves qui sont en limite de décrochage, et puis pour lesquels on peut, voilà, on peut essayer. Pour les élèves qui n'ont pas de problème, le SOC n'a pas vraiment d'intérêt. Ben bon. Pour des élèves qui sont vraiment très, très, voilà, les 10% qui ont du mal, c'est pareil, c'est pas cet outil-là dont on a besoin. Mais le SOC, pour les élèves moyens, et en particulier les élèves moyens faibles, ça peut être un outil s'il était bien conçu. C'est-à-dire que c'est vraiment des standards minimums qui soient là. Mais du coup, il faut qu'il y ait un travail de fait. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un travail de cherche pour que ce soit vraiment des standards minimums qui soient mis en avant, que ce ne soit pas du pifomètre, même si le pifomètre, l'expérience dit des choses, bien sûr. C'est généralement, il y a aussi l'expérience qui a été capitalisée. Hein. Et puis, c'est surtout. Qu'est-ce que l'on fait? C'est-à-dire que du coup, c'est un outil de régulation. De régulation, par exemple, au niveau d'un établissement. Qu'est-ce qu'on fait pour ces élèves qui, on voit bien, là, au niveau de la validation, il y a un problème. Mais il ne suffit pas de constater qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils arrivent à récupérer ce palier? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Collectivement, sur nos collèges, ou qu'est-ce qu'on met en œuvre, voyez? Enfin bon, ça, c'est l'interprétation que j'en ai. Et après, au collège... Toutes les disciplines sont concernées par l'ensemble des compétences du socle.
Enfin, ce que je voulais dire, c'est dans ce que tu pointais, je vais donner la parole, hein, tu pointais des différences d'interprétation qui étaient peut-être dues aux différences des enseignants de différentes disciplines qui avaient à répondre, par exemple, c'était sur vraiment ce qui concernait la manipulation.
Oui, oui, non, mais
voilà, tu es un.
Mais dans ce que j'ai t'ai dit là, ça vient aussi d'OSEP, donc l'observatoire, voilà, dont tu fais partie.
Distinction entre disciplines sur Voilà. Alors que ça va se retrouver forcément si on la met en œuvre, si on arrive à la mettre en œuvre sur cette compétence d'écriture dans plusieurs disciplines.
Oui. Hein,
c'est-à-dire
oui.
Se heurter à
bien
des.
Sûr. Mais ça veut dire du coup
des conflits disciplinaires.
Travailler en commun, et donc ça veut dire aussi permettre aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions en commun. C'est pas rajouter une couche. Hein. C'est.
Je suis désolé, mais je suis un petit peu gêné par ce que vous dites sur le socle pour les élèves oui. moyens faibles. Et là, je vais parler non pas en tant que formateur d'IUFM, mais oui. en tant que prof de terrain. En tant que prof de terrain, ça fait 4 ans que je suis à l'UFM, et quand on a vu arriver le socle, je me suis dit, tiens, voilà une occasion de modifier nos pratiques.
Oui, aussi.
Et donc, de modifier nos pratiques pour tous les élèves. Et pas seulement pour les élèves faibles. Et par exemple, si on concevait le socle comme un sous-brevet, enfin, je m'excuse, peut-être que j'interprète mal ce que vous avez dit. Oui, d'accord. Et je trouve que là, il y a cette espèce de schizophrénie que vous marquez chez les enseignants que vous avez vu travailler et qui sont à la fois pris dans une double exigence. Ouais. L'exigence d'un socle qui va imposer des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles façons d'organiser le trajet dans la connaissance. Et puis les exigences d'une institution qui veut qu'on continue à classer et donc qui veut des notes. Voilà, c'est cette schizophrénie-là qui empêche toute chose. Et donc, si on veut maintenir les deux systèmes, enfin, j'ai l'impression que c'est ce que vous disiez, d'un côté, les très bons élèves qui vont, ou des bons élèves qui vont décrocher le brevet, et pour lesquels le socle, finalement, n'a pas d'intérêt, et puis, de l'autre côté, ces élèves moyens faibles, pour lesquels il faut penser et approcher autrement, là, on va rester schizophrène si on pense qu'on va pouvoir conserver ces deux systèmes-là en parallèle, Dans l'établissement scolaire, je vois pas d'issue. Et moi, j'envisagerais bien un socle, une école du socle. Enfin, c'est cette réflexion politique. Hein, je crois que la dimension politique, on l'aborde pas beaucoup pour l'instant dans le stage. Mais cette dimension politique d'une école du socle qui permet de ne plus mettre les élèves dans une compétition permanente, etc., etc., me paraîtrait, moi, beaucoup plus intéressante. Mais alors, donc, voilà. Mais en même temps, il est tard. Je pense en même temps que je parle, en même temps que je pense. La réflexion n'est pas aboutie.
Voilà. Je me suis peut-être mal exprimée. C'est-à-dire que je ne voulais pas dire que le socle commun de connaissances et compétences n'avait pas d'importance pour les élèves. J'ai dit qu'en tant qu'outil de régulation, c'est pour les élèves. Effectivement, le socle commun de connaissances, ça permet éventuellement de transformer éventuellement des pratiques, comme tout outil d'évaluation, et donc de faire rentrer, je disais, les apprentissages de l'élève, de ce qu'il est vraiment capable de faire dans la classe. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Je pense que c'est plus une mauvaise interprétation ou une mauvaise explication que j'ai eue. Moi, je disais, en termes d'outils de régulation, c'est-à-dire que c'est là qu'il y a sans doute quelque chose d'important pour ces élèves fragilisés, si je puis dire, et qui sont quand même un problème, on sait, dans le système éducatif français. C'est-à-dire, à un moment donné, ça peut être un outil, voilà, pour justement, si on prend vraiment à bras-le-corps ce problème. Ah oui, non, mais moi, je ne parle pas en termes de validation, je vous le dis, je parle en termes de régulation. Je ne le mets pas du tout, voilà, je ne l'ai pas du tout mis en termes de, hein, je n'ai pas du tout parlé en termes de validation, c'est-à-dire que, hein, c'est pas... Voilà, moi je lui ai parlé en termes de régulation et donc en tant qu'outil dans un curriculum. Hein. Je n'ai pas du tout parlé en termes de validation. Voilà, c'est là-dessus effectivement, je suis d'accord avec vous.
Oui, je réfléchissais là en t'entendant, Marilyn. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de tension entre la notion de palier et la notion de standard.
Possible.
Je vais sortir du socle parce qu'il est trop lié. Comment dire, aux progressions à l'intérieur de notre système scolaire, je vais prendre le cadre européen pour les langues. Le cadre européen pour les langues définit lui aussi des paliers. 6 paliers, enfin, je ne sais pas si vous savez, de A1 à C2. Mais ces paliers, vous pouvez les franchir que vous ayez 12 ans, 20 ans, 70 ans, peu importe. Ce sont des paliers de compétences, peu importe l'âge auquel on franchit ces paliers. On rentre à 60 ans dans une école de langue et on démarre à 1 et on termine peut-être à C2. Donc, il faut distinguer la notion de palier en théorie, hein, qui indique simplement un niveau de compétence totalement indépendamment des élèves qui ont tel et tel niveau. C'est-à-dire c'est une objectivation par la formulation commune, justement, d'un certain nombre de caractéristiques comportementales à réaliser, à manifester dans certaines circonstances et dans certaines situations. À partir du moment où on parle de standard, Ça veut dire qu'on impose à une population, donc une population d'enfants, qu'à tel âge, à peu près, il va falloir qu'ils aient atteint tel palier. Et donc, du coup, ce que tu dis par rapport à ton expérience d'enseignant et au fait que...
Mais ce sont des paliers d'évaluation, les standards.
Oui, oui. Mais peut-être. Mais ils sont liés à un âge. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain... dans une certaine évolution d'une génération d'enfants, il faut que tant ait atteint tel palier à tel âge. Et donc, du coup, on met une pression sociale par rapport au franchissement des paliers successifs, ce qui n'est pas dans la notion de palier. Alors, je ne dis pas que c'est une contradiction, en termes d'incohérence. Je dis qu'il y a une tension entre ces deux choses-là, parce qu'en même temps, il faut bien se rendre compte qu'un pays ou un système éducatif, il doit aussi s'interroger sur le nombre d'années que mettent tant d'élèves pour atteindre les paliers requis. Mais voilà, comment ? Pardon, je... oui, bien sûr. Mais à un moment donné, quand même, il faut s'interroger sur l'efficacité pour une population moyenne. Donc, je pense que dans ces deux notions, il y a une sorte de tension, mais inévitable sans doute. Le problème, c'est de ne pas la faire jouer d'une manière sélective. Et là, on retombe dans tes craintes, dans les craintes que tu exprimais, bien entendu. Mais il faut à ce moment-là différencier sérieusement la situation d'apprentissage de la situation où, à un moment donné, effectivement, il y a besoin de sélectionner à partir d'un certain âge.
On revient sur le rôle ou la fonction qu'on fait jouer à ces outils. Parce que dans le cas, tu parles des paliers du cadre commun, etc. Parce que là, on est dans une fonction d'organiser des apprentissages, quel que soit l'âge, Dans les standards, on est sur le pilotage du système éducatif ou le pilotage d'un établissement. Ce n'est pas du tout la même fonction.
Moi, je voudrais revenir sur deux, trois petites choses. D'abord, par rapport à l'Académie d'Orléans-Tours, parce qu'il se trouve qu'on est toutes les deux de l'Académie d'Orléans-Tours, qu'on est formateurs, qu'on intervient, non pas en FZT, en histoire-géo, mais bon, peu importe, qu'on intervient. Donc, on fait partie, j'allais dire, du pool de formateurs qui interviennent dans l'Académie pour essayer de mettre en place ce socle. Donc, par rapport à la présentation des activités dans la compétence 3, si vous alliez fureter un peu côté compétences 5, enfin toutes les matières, vous trouveriez exactement la même démarche, puisque pour des raisons de lisibilité, nous avons, une trame, une maquette un petit peu obligatoire. Hein, donc, c'est pas tellement dû aux profs de physique, mais c'est un
petit... C'est plutôt dû à Orléans-Tours.
C'est plutôt dû à la maquette régionale. Voilà, à la maquette... alors, je suis pas sûre que ça soit de la com, mais c'est à la maquette de la communication. Alors, entre nous, hein, c'est-à-dire entre formateurs, mais aussi à destination des autres collègues, parce que... moi, personnellement, ce qui m'avait un petit peu chagriné par rapport au livret de compétences, etc., dont on a parlé ce matin, c'est qu'il n'y a pas eu quelque chose de standard. C'est-à-dire que la compétence 1, elle a écrit certaines choses, la compétence 3 d'une autre façon, la compétence 5 d'une autre façon. C'est d'une lisibilité. Voilà, et à l'intérieur d'une même compétence, ce n'est pas la même chose. C'est d'une lisibilité absolument redoutable. Nous, j'allais dire, c'est notre boulot, ça nous intéresse, on s'y penche et on fait l'effort d'eux. Le professeur lambda a beaucoup plus de mal à le faire, hein, et c'est vrai que ça, moi, là-dessus, je crois que c'est aussi un des reproches qu'on peut faire à l'écriture de ce socle, c'est qu'on a tout fait pour que ça soit complètement répulsif, hein, dans la présentation. Alors, ça, c'était la première chose. Je parle du terrain, des gens sur le terrain, c'est la perception qu'on en a, nous, quand on essaie de travailler dans l'Académie. L'autre chose, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur les coups de pouce, et je rejoins un petit peu ce que disait le collègue sur le problème de cette je veux dire, de cette schizophrénie du système qui, d'un côté, veut mettre en place un socle de compétences et travailler sur les compétences, et au bout du bout, il n'y a que des notes. Et donc, bah, les collègues, ils sont bien embêtés parce que, à un moment, bah, il faut leur demander des notes. Alors, on est prêt à toutes les expérimentations. On est prêt à mettre des sixièmes sans notes, des cinquièmes sans notes. Quatrième, déjà, on commence à se poser des questions. Il est hors de question qu'on mette des troisièmes sans notes puisque le brevet, c'est des notes. Donc, c'est vrai qu'on se trouve dans une situation sur le terrain qui est pas très, très facile. Et c'est vrai qu'enlever, alors je comprends très bien votre discours par rapport à enlever des points, les coups de pouce, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour nous à gérer ce dilemme, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai qu'une compétence, elle est acquise ou elle est non acquise. Après, c'est quoi la note, quoi, hein. C'est vrai que ça nous pose un réel problème. Et puis, dernier point, sur l'Académie d'Orléans-Tours, on essaie aussi de proposer, alors c'est en cours de construction, je ne sais pas si vous y avez accès, nous on y a accès en tant que formateur, vous peut-être qu'en tant que chercheur, vous y avez accès, à mettre une banque de données d'activités bidisciplinaires, hein, dans laquelle on essaie de montrer comment on peut mettre en œuvre à travers les disciplines, certaines choses. Et dernier point, les collègues sont prêts à faire tous les diagnostics, mais après on nous dit, ce que vous nous dites, c'est très bien, on est prêt à le faire, ça nous intéresse. Mais une fois qu'on a fait le diagnostic, comment on soigne? Et quelle est la remédiation? Avec quoi? Sur quels moyens? Sur quel temps? Sur quel temps de concertation? Et ça, c'est vraiment le gros problème du SOC, c'est aussi que ça n'a pas été pensé, comment on le met en place réellement sur le terrain.
Le travail collectif.
Oui, oui, voilà, c'est le travail d'équipe, puisque on a bien compris que derrière, c'est le travail collectif. Mais ce travail collectif, quand, comment, avec qui, sur quels moyens, sur quel temps, voilà, avec quelles aides, et puis concrètement, comment, quoi. Et c'est vrai que. Et dernier point, c'est je fais comment quand j'en ai 32 dans ma classe, parce qu'on est quand même tous maintenant plus ou moins confrontés à des classes, enfin, en tous les cas sur l'Académie d'Orléans-Tours, des effectifs entre 28 et 32. Donc c'est vrai que ça commence à devenir extrêmement.
Et avec une séquence de 50 minutes.
Et avec une séquence, effectivement, de 50 minutes.
Qui est souvent
et
le.
Et ça pose vraiment. Vraiment problème.
De ne pas se centrer sur plus de deux compétences et de choisir à chaque fois pas plus de trois items. Et il y a eu une discussion entre formateurs parce qu'il y a plein de fois où on a dit oui, mais là ça touche à la compétence C1 presque systématiquement dans toutes les activités qui étaient proposées. Même les tâches complexes, à chaque fois elles font appel au C1. Et à chaque fois, on nous disait non, deux compétences, pas plus, parce que si vous en mettez trop, on va s'éparpiller, etc. Deux compétences, trois items au maximum. Donc là, c'est pareil. Comment gérer de multiples compétences, etc. Même si elles sont mobilisées, après les évaluer, c'est pas si facile que ça.
Je pense que ça pose la question à laquelle ne va pas répondre le stage, qui est celle de la politique. Voilà. Le problème, c'est qu'on. Oui, oui, mais on ne peut pas y répondre, parce que d'une part, c'est pas, nous, on n'est pas là pour ça, nous. Hein. C'est le travail d'autres. Voilà, c'est à chacun son job. Mais je pense qu'on est sur un paradis. En fait, on est à un moment de transformation qui fait qu'on parle d'une institution très structurée à manifestement une transformation de la scolarité qui ne pourrait, d'après tout ce que j'entends dire ici, entrer réellement en vigueur que si chaque enseignant s'en saisit déjà lui-même et que si localement au sein d'un établissement, on finit par écrire son propre, pourquoi pas, socle commun. Voilà. Et après, une régulation à un niveau plus haut. Mais en fait, c'est le problème de quelque chose qui a été parachuté. Alors que ça appelle là par nature, franchement, et c'est ce que tu montrais en fait. Hein,
et ça met bien en avant l'idée de formation de l'école obligatoire. C'est aussi quelque chose, parce que souvent on a plutôt pensé par exemple le primaire comme propédeutique au secondaire, quoi, quelque chose comme ça. Et là, avec l'idée de l'école du socle, on est bien sur la formation aux fondamentaux. Ben, si je puis dire, ça remet en avant l'école obligatoire, quoi. Ça remet en avant et ça le prend au sérieux. Pas simplement, on est là pour préparer ce qui suit.
Et les fondamentaux vont.
Mais ça n'empêche pas qu'on a les horizons. Hein. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'on a les horizons.
Donc, il y a des ajustements à faire. Les tensions se vivent à tous les niveaux. Dans l'histoire, de toute façon, du système éducatif depuis 1880, il y a toujours eu des périodes qui ont, je crois, été de l'ordre de 30 ans en termes d'évolution. Alors, le seul problème pour nous, et si on compare avec la Suisse, j'ai fait intervenir, moi, Monsieur Pernoud, chez nous, à Corbeil, et il nous a bien expliqué la différence en Suisse. Eh bien, ils ont carrément pensé autrement, justement, les choses, en partant plus des apprentissages plutôt que des contenus, mais ils y ont mis aussi 20 ans.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est peut-être du travail à poursuivre, parce qu'on est convaincu que si on se place du côté des élèves, on gagnera peut-être davantage que si on se place du côté des contenus, quoi, c'est ça. Et puis, il faut évidemment aider les enseignants à voir clair et à construire, parce que justement, je vais demander de l'aide pour aider des enseignants qui en sont en train de construire leur palier d'apprentissage, parce que, justement, nous ne les avons pas d'en haut.
Bah écoutez, merci à vous.
Et alors, merci, Marilyn. On pourra continuer la discussion politique entre nous.